Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
Dans la précédente chronique westernosophique, j'ai évoqué donc un film, Le train sifflera trois fois, et la figure du shérif, Bill Kane, interprété par Gary Cooper, comme une figure qui pourrait être vue comme la figure de la pureté morale. En effet, dans ce film, l'action de Bill Kane, attendre que le méchant revienne avec ses adjoints et en débarrasser définitivement la ville, paraît être une action accomplie purement par devoir, sans envie, sans intérêt, sans plaisir et sans souci pour son bonheur personnel, puisque Bill Kane, en faisant cela, prend le risque de sacrifier son propre couple.
Pourquoi t'arrêtes-tu, Bill ?
J'ai eu tort, on fait demi-tour, Edma.
Pourquoi ?
Je n'ai même pas pris mon revolver, c'est idiot.
Alors allons-nous-en, chérie.
Non, c'est à quoi je réfléchissais. Ils m'ont fait fuir, jamais de ma vie encore on m'avait fait fuir.
Mais de quoi s'agit-il, enfin ?
Je n'ai pas le temps de t'expliquer ça.
Alors ne retournons pas, Bill.
Il le faut. Et tout est là.
Donc, action apparemment parfaitement pure d'un point de vue moral. Or, j'ai revu le film récemment et en le revoyant avec attention, je me suis rendu compte que la signification était beaucoup plus ambiguë, beaucoup plus complexe et que le film réfléchissait peut-être plutôt sur l'illusion de la pureté morale. C'est ce que je vais essayer de montrer dans cette chronique. D'abord, ce qui est intéressant de voir, c'est que dès le début du film, il y a un thème qui est central, c'est la peur. Les trois adjoints de Miller qui arrivent à la gare, ils suscitent la peur. Ils viennent à la gare donc attendre leur chef. Et la peur notamment du chef de gare. Et là, d'ailleurs, il y a une citation directe dans « Il était une fois dans l'Ouest » au début du film. Hein. Et quand Bill Kane pense à partir, puisqu'en fait Bill Kane donc, n'est plus shérif de la ville, donc en théorie, il n'a plus à s'occuper du cas de Miller qui revient, c'est à son successeur de le faire. Mais finalement, il hésite à partir et on le soupçonne d'avoir peur justement. Et une des raisons qui vont faire que Bill Kane ne va pas partir, c'est qu'il a honte qu'on puisse penser qu'il ait peur. Il dit d'ailleurs, ils m'ont fait fuir, jamais personne ne m'avait fait fuir, et c'est là où il décide de revenir. Donc finalement, cette idée de fierté, d'orgueil, elle est incompatible avec la pureté de l'action morale. Si je fais un acte moral purement par fierté, ce n'est pas un acte moralement pur, dirait Kant. Autre argument, Bill Kane dit, mais de toute façon, même si on s'en va, Frank Miller nous poursuivra. Donc là, en fait, il décide pas de tuer le méchant simplement parce que c'est son devoir, mais aussi parce que c'est son intérêt personnel, son intérêt privé. Et donc là aussi, ça paraît incompatible avec la pureté d'une action morale pure. Et d'ailleurs, on le lui reproche. Il y a une scène assez intéressante dans le temple où Bill Kane, il continue à chercher des gens pour l'aider. Hein, c'est le thème du film. Hein, tout le long du film, Bill Kane essaie de trouver des gens pour l'aider à affronter la bande de bandits qui va arriver dans la ville. Et en fait, il y a des gens qui lui disent « Mais dis-moi, Bill Kane, est-ce que tu agis au nom de l'intérêt général ou de motivation personnelle ?» Et là, les motivations personnelles, bien sûr, elles vont faire tache sur la soi-disant pureté morale du personnage. Alors, ce qui apparaît dans le film, et ce qui est intéressant, ce qui en fait un film, bien sûr, et non pas une thèse philosophique, c'est que Bill Kane n'est pas un sujet transcendantal, c'est pas un sujet pur. Bill Kane, c'est un homme incarné, comme nous tous. Et il y a une scène d'ailleurs, on voit bien l'incarnation de l'homme, c'est la scène où il se bagarre dans l'écurie avec son adjoint, où il fait preuve d'une grande sauvagerie, où d'ailleurs, il y a une musique très dissonante à ce moment-là, il y a une régression vers l'animalité, il se bat au milieu des chevaux, et puis il repart avec sa belle chemise blanche tout tachée. Donc là, il y a cette idée justement du deuil qu'il faudrait peut-être faire de la pureté morale, et tout le film d'ailleurs, est basé sur de forts contrastes lumineux. C'est un film qui a été tourné en noir et blanc. Et ça contribue d'ailleurs, ce noir et blanc, à faire du film une allégorie presque abstraite.
Va-t'en. Non, laisse-moi tranquille. Et puis ne me bouscule pas.
Et ce noir et blanc, d'ailleurs, il renvoie de manière assez subtile aussi dans le film à deux personnages féminins. Le premier, c'est la femme de Bill Kane, jouée par Grace Kelly. Et Grace Kelly, ça peut être vu justement pour, comme une incarnation de la pureté. D'abord parce qu'elle est parfaitement blanche, elle est presque transparente en fait, hein, elle est presque désincarnée dans le film. Elle est en blanc, bon, parce que c'est le jour de son mariage, donc elle a sa robe de mariée, les cheveux blonds qui, dans noir et blanc, deviennent blancs. Et finalement, c'est une figure presque virginale dans la mesure où, en fait, quand on voit du blanc sur un écran de cinéma, c'est le blanc de l'écran lui-même. C'est que finalement, la pellicule laisse passer la lumière sans l'arrêter. Donc, c'est une figure vraiment là qui renvoie au symbole de la Vierge Marie dans la peinture de la Renaissance, comme ça, de laisser passer la lumière. Donc, elle est presque désincarnée. Et elle incarne justement la non-violence, puisqu'étant quaker, elle se refuse à toute violence. Donc, c'est une figure allégorique. Et elle contraste avec une autre figure féminine, Hélène Ramirez, qui, elle, a des cheveux bruns. Donc, il y a ce couple de la blonde et de la brune qui est typique du cinéma américain. Elle a la peau basanée. Et cette magnifique figure de femme westernienne, d'ailleurs, c'est une très belle idée. Patrick Brion, dans son livre sur le western, il dit que c'est une idée superbe, puisqu'Hélène Ramirez, en fait, on l'apprend, a été successivement la maîtresse d'abord de Frank Miller, du méchant qui revient, deuxièmement de Bill Kane, donc le héros entre guillemets, hein, interprété par Gary Cooper, le shérif, et puis de Hervé Pell qui est son adjoint. Et donc le fait qu'elle ait été la maîtresse de ces trois hommes, ça établit bien sûr des relations très ambiguës entre ces hommes, et notamment entre Frank Miller, le mal, pour le dire vite, et Bill Kane, le bien. Et d'ailleurs, Madame Kane, donc interprétée par Grace Kelly, à un moment, elle croit qu'il rentre non pas pour tuer Miller, mais pour protéger son ancienne maîtresse. Hein. Il y a un plan d'ailleurs assez amusant, je pense que là, Zinman s'est un peu amusé, où on voit Grace Kelly qui rentre chez Hélène Ramirez, et elle est encadrée dans la porte, et derrière, il y a un trophée de chasse avec des cornes et l'ombre des cornes, donc peut-être allusion subtile à un possible cocufiage de la jeune mariée.
Excusez-moi. Madame Ramirez, quel numéro, je vous prie ?
Le 3.
Merci. Entrez. Oui. Madame Ramirez, je suis Madame Kane.
Je le sais.
Puis-je vous parler?
Oui, bien sûr. Asseyez-vous, madame.
Non, merci.
Alors, parlez.
Enfin, toujours est-il qu'à la fin du film, cette figure pure, cette figure angélique, interprétée par Grace Kelly, eh bien, elle aussi, elle va symboliser le deuil de la pureté, puisque finalement, elle va tuer un homme en lui tirant dans le dos pour sauver son mari. Elle va se rendre compte que la vie parfaitement pure n'est peut-être pas possible. Alors, évidemment, et c'est ce qui fait l'intérêt de tout film, le spectateur, il ne saura jamais si les intentions de Bill Kane étaient moralement pures, d'un point de vue kantien, hein, donc désintéressées, ou bien si elles étaient mélangées à des affects et à des intérêts purement personnels. Au cinéma, on voit le visage des personnages, on voit le visage de Gary Cooper, mais on ne voit pas sa conscience, on ne peut pas filmer la conscience, on ne peut pas rentrer dans la conscience. Donc on ne peut pas connaître les intentions réelles quand les hommes agissent. Et peut-être même que lui-même en serait incapable. Il n'est pas impossible que nous soyons nous-mêmes incapables de connaître les réelles intentions de nos actions. Peut-être qu'il n'est pas possible de savoir quand nous faisons une bonne action, entre guillemets, si nous la faisons vraiment au nom de la morale ou bien s'il y a d'autres intérêts qui s'en mêlent. Et justement, Emmanuel Kant, le philosophe de la rigueur et de la pureté morale, il exprime dans un texte un doute sur la possibilité d'une action qui soit réellement pure d'un point de vue moral. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce texte. Donc c'est tiré des fondements de la métaphysique des mœurs. Je cite donc. « En fait, il est absolument impossible d'établir par expérience et avec une entière certitude un seul cas où la maxime d'une action, donc la maxime d'une action c'est la règle qu'il a inspirée, où la maxime d'une action d'ailleurs conforme au devoir est uniquement reposée sur des principes moraux et sur la représentation du devoir. Car il arrive parfois sans doute qu'avec le plus scrupuleux examen de nous-mêmes, nous ne trouvons absolument rien qui, en dehors du principe moral du devoir, ait pu être assez puissant pour nous pousser à telle ou telle bonne action et à tel grand sacrifice. Donc là, Kant y constate que parfois, quand on a fait une bonne action, on a beau chercher, on ne voit pas d'autres raisons de l'avoir faite que des motivations morales. Mais il continue. Mais de là, on ne peut nullement conclure avec certitude que réellement ce ne soit point une secrète impulsion de l'amour-propre qui, sous le simple mirage de cette idée, était la vraie cause déterminante de la volonté. C'est que nous nous flattons volontiers en nous attribuant faussement un principe de détermination plus noble. Mais en réalité, nous ne pouvons jamais, même par l'examen le plus rigoureux, pénétrer entièrement jusqu'au mobile secret. Or, quand il s'agit de valeurs morales, l'essentiel n'est point dans les actions que l'on voit, mais dans ces principes intérieurs des actions que l'on ne voit pas. Fin de citation. Autrement dit, Kant nous laisse face à un doute terrible, on ne saura jamais si on est un honnête homme, et si on l'est de manière purement morale, puisque même le sujet le plus scrupuleux, nous dit-il, même en menant l'introspection la plus radicale et la plus profonde, eh bien nous n'atteindrons peut-être pas ces motivations secrètes et peut-être, dit-il, cet amour propre qui ferait que peut-être Bill Kane a sauvé la ville, non pas pour des motivations morales, mais aussi pour passer pour un héros. Dans la prochaine chronique, j'évoquerai un autre film marqué par le contexte du maccartisme, comme l'a été Le Train sifflera trois fois. C'est un film de Nicolas Ray qui s'appelle Johnny Guitar.
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxième et quatrième dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.grenouille888.org.